Merci de tous vos bons mots d'accueil qui sont, à vrai dire, quelque peu excessifs. Et je pense que vous espérerez bientôt que ce que je vous aurai donné n'aura pas été le meilleur de ma pensée. Vous avez raison de dire que je viens ici, que je suis déjà venu ici, parce que, non seulement parce qu'on m'a invité, mais parce que je le fais volontiers. Aussi parce qu'on m'a invité d'ailleurs. Mais un institut comme Philanthropos, j'en suis convaincu, et je le dis aussi en guise de remerciement à ceux qui lui permettent d'exister, correspond à une véritable nécessité, et dont on voit déjà les fruits, et on en verra encore les fruits. C'est quelque chose d'assez essentiel. Et un institut sur lequel je compte d'ailleurs aussi en partie pour la vie de ce diocèse. Maintenant, passons à l'athéisme contemporain. Ce n'est pas peut-être le thème qui, pour être franc, m'intéresse le plus, mais c'est un thème dont je pense qu'il est important de parler, et je vais vous dire pourquoi. J'espère du moins. Je dirai quelque chose. Plus ou moins, disons, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, semble-t-il, le philosophe Critias aurait dit, et on ne sait pas si c'est tout à fait exact et si c'est lui, mais cela situe les choses. Il est cité plus tard. C'est Sextus Empiricus qui le cite. Critias, un de ceux qui furent tyrans à Athènes, semble appartenir au groupe des athées. Il déclare que les anciens législateurs ont fabriqué la fiction de Dieu, définie comme une puissance qui porterait son regard sur les actions justes et les fautes des hommes, afin que personne ne porte à tort en cachette à son prochain, ayant toujours à se garder du châtiment des dieux. Qu'est-ce que cela signifie? Comme il faut garantir un peu d'ordre dans la société, et que les gens ont tendance à chercher leur avantage privé, il faut trouver un moyen de les tenir en laisse en les effrayant, et comme les policiers sont visibles à distance, il vaut mieux qu'il y ait un dieu qui les voit partout où ils sont, donc on invente un dieu. Voilà cette idée exprimée, semble-t-il, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Juste pour dire en guise d'introduction, certains arguments que l'on entend aujourd'hui et dont on aurait tendance à penser qu'ils sont nouveaux ne le sont pas toujours. En partie, ils le sont, mais il n'est pas très facile de dire des choses franchement nouvelles. Maintenant, après cette introduction, cette assez brève introduction historique, j'aimerais signaler l'importance de la question. Et je vais signaler l'importance de la question. Je vais lire passablement de textes ou les résumés. Je préfère citer les autres, vous voyez, ça donne un peu plus de chances que je dise quelque chose d'intéressant. Mais j'ajoute un commentaire. Peter Kreeft, ou Kreeft, d'après certains, qui est un philosophe américain, par ailleurs croyant et engagé dans des débats en faveur de l'existence de Dieu et de l'Église, a fait l'introduction à un débat entre plusieurs philosophes pour ou contre l'existence de Dieu. Et c'est ce que je vais citer. Dans ce texte, en gros, il ne dit même pas ce qu'il pense lui-même par rapport à la réponse à la question, ce que l'on sait par ailleurs, mais la question est importante. Et je crois que, de fait, cette question de l'importance de Dieu, une des pires choses que l'on pourrait faire, c'est considérer qu'elle n'est pas importante. Et voilà ce qu'il en dit. L'idée de Dieu, ou bien est un fait, comme le sable, ou bien une fiction, comme le Père Noël. Vous voyez qu'il laisse la question ouverte, puisqu'il introduit un débat. Dieu, oui ou non? Il dit, au moins, la question se pose ainsi, est-ce que c'est un fait que Dieu existe, ou est-ce que c'est une fiction? Et il continue. Si c'est une fiction, une invention humaine, c'est la plus grande invention de toute l'histoire humaine. Et puis il donne des exemples d'inventions. Le contrôle du feu, la domestication des animaux, la culture du blé, la roue, le bateau, la fusée, le baseball, il est américain, l'orchestre symphonique, l'anesthésie, etc. Il dit, mettez toutes ces inventions remarquables et fort utiles sur un plateau de la balance et de l'autre, mettez l'idée de Dieu. Eh bien, vous verrez que l'idée de Dieu, et là je peux même recommencer à le citer, l'idée de Dieu a changé et bouleversé plus de vie et de choses dans l'histoire que toutes ces inventions réunies, et même radicalement plus. Et puis il continue. Il dit, Et supposer que dans l'histoire, personne n'ait jamais conçu l'idée de Dieu. Maintenant, réécrivez l'histoire à partir de cette prémisse. On n'y comprend plus rien. Vous voyez, ces pièces de théâtre où on donne la liste des personnages au début, vous enlevez le personnage central et vous essayez de comprendre la pièce de théâtre, vous n'y comprenez plus rien. Dans le cas de Dieu, c'est encore pire. Indépendamment même de ce que l'on peut penser par rapport à son existence, si on essaie de comprendre l'histoire en enlevant le personnage Dieu, eh bien, tout devient à peu près incompréhensible. Certains s'en rendent compte. Je me souviens d'avoir rencontré dans un bus fribourgeois un professeur de littérature française que je n'avais pas vu depuis son adolescence et la mienne. Et il m'a dit, tu sais, j'ai fait une erreur. J'aurais dû étudier la théologie parce que je me suis spécialisé dans la littérature française du XVIIe siècle et je n'y comprends pas grand-chose. C'est un exemple limité mais réel. D'un autre côté, Daniel Dennett, qui est aussi américain mais athée militant, dit « Il est grand temps que nous soumettions le sujet religion en tant que phénomène global à la recherche interdisciplinaire. » Et il ajoute « Pour beaucoup de monde, probablement la majorité des gens sur Terre, rien n'importe plus que la religion. » Là, c'est l'athée qui parle, alors que le précédent n'était pas athée, mais au moins ils sont d'accord sur un point. La question est capitale. Un autre témoin de l'importance de la question est un philosophe italien contemporain, Paolo Flores d'Arcais, athée convaincu et extrêmement militant, qui en l'an 2000 a publié dans sa revue italienne Micromega un numéro spécial consacré à la question de l'existence de Dieu. Et cette revue, gros volume, a eu un succès de librairie absolument extraordinaire, quasiment tout de suite épuisé. Ensuite, on en trouvait véritablement des piles montant à cette hauteur devant les kiosques dans la rue. Donc, un phénomène tellement étonnant qu'en quelques mois, on en a vendu des dizaines de milliers, que le cardinal Ratzinger a pris l'initiative d'un débat public avec Paolo Flores d'Arcais quelques mois plus tard. Et je n'ai pas besoin de vous le présenter, puisque je vous ai déjà dit qui est Paolo Flores d'Arcais. Ni le cardinal Ratzinger, d'ailleurs. Et dans cette revue, en l'an 2000, il dit pourquoi il a eu l'idée d'un numéro spécial sur la question de l'existence de Dieu. Et il dit, l'Église catholique s'intéresse-t-elle encore au contenu de vérité de la religion qu'elle proclame vraie? Et il ajoute, l'Église et la culture catholique éludent désormais systématiquement les objections sceptiques et athées élaborées par la modernité. Il parle dans un contexte, et c'est seulement italien, je crois que ce n'est pas vrai, par exemple, aux États-Unis ou même en Grande-Bretagne déjà à cette époque. Mais en France, peut-être un peu. Il dit, nous essayons de parler, nous présentons des objections, est-ce qu'on nous répond? On ne nous répond pas. Personne ne semble s'intéresser, parmi les théologiens, à traiter de la question de l'athéisme. Et il ajoute, mais alors, dans ce cas-là, est-ce que l'Église est encore disposée à discuter de la vérité de Dieu, ou est-ce qu'elle a réduit la religion au sens de la vie? Ça donne un sens à ma vie. Mais alors si c'est vrai, si c'est bien cela, c'est peut-être une drogue, l'opium du peuple. Si vous n'arrivez pas à parler de la vérité et que vous dites simplement « moi, ça me donne un sens », est-ce que la vérité vous intéresse? Autre exemple de l'importance de la question illustrée en quelque sorte en négatif par l'absence d'une réponse. Il y a eu vers 2005, je pense, un débat dans une cathédrale française, je ne sais plus laquelle, entre l'athée André Comte-Sponville et le père Philippe Capel, professeur à l'Institut catholique de Paris, sur l'existence de Dieu. Et à un moment donné, André Comte-Sponville, qui parle à ce moment-là après le père Capel, dit je n'étais pas à cette conférence, peut-être que ce qu'il dit est injuste, mais j'ai lu le texte des deux et j'ai rencontré des gens qui étaient à la conférence. Ce qui fait que je pense que peut-être Comte-Sponville avait raison. Il dit, une des raisons les plus simples de ne pas croire que Dieu existe, c'est la faiblesse des arguments opposés. J'espérais que le père Capel consentirait à les exposer afin que chacun d'entre vous puisse en percevoir la faiblesse, mais il n'en a pas pris le temps. Donc, en d'autres termes, si nous n'essayons pas de répondre, ne soyons pas trop surpris que notre position ne soit pas prise au sérieux par les autres. Et il faut essayer de répondre. D'autant que, quand on parle du sens ou du désir de Dieu, le même Comte-Sponville, bien que dans une autre œuvre, mais il le dit à plusieurs reprises, dit aussi, si je suis athée, c'est aussi parce que je préférerais que Dieu existe, parce qu'il correspond à mes désirs les plus forts. Et il ajoute, une croyance qui correspond à ce point à nos désirs, il y a lieu de craindre qu'elle ait été inventée pour les satisfaire. Car enfin, reconnaissons que la réalité n'a guère coutume de combler à ce point nos espérances. En d'autres termes, dire simplement, il y a en nous un désir de Dieu, cela peut être utilisé comme argument par un athée en faveur de sa non-existence. Maintenant, voyons un peu quels sont les arguments des athées. Parce que je pense, suivant en cela la méthode que saint Thomas d'Aquin expose dans la Somme de théologie, qu'il est bon de connaître les objections des autres, de voir ce qu'il peut y avoir de bon dans ces objections ou de vrai, et si possible d'y répondre. Donc, quels sont les arguments des athées ? Évidemment, c'est moi qui présente leurs arguments, peut-être que je suis un peu biaisé même, vous pouvez vérifier. Alors, il y a un phénomène assez courant que j'appellerais réductionnisme, la réduction de toute vérité à un certain type d'explication scientifique. Et je suis prudent dans mon affirmation, je ne dis pas les sciences naturelles, je dis une certaine manière de les comprendre et d'étendre leur type d'argumentation à toute question possible. Par exemple, l'athée Sam Harris, ce n'est même pas seulement scientifique, l'a dit, la religion n'est rien d'autre que de mauvais concepts reçus une fois pour toutes à la place des bons. C'est la négation, pleine d'espoir et de crainte, de l'ampleur de l'ignorance humaine. Ou Richard Dawkins, peut-être l'athée le plus célèbre maintenant, celui qui est à l'origine en Angleterre, et ça s'est étendu dans d'autres pays ensuite, des campagnes de publicité sur les bus, en l'occurrence les grands bus à Impérial, c'est plus d'espace pour la publicité, sur lesquels, à l'initiative de lui-même et de quelques-uns de ses amis, on a répandu pendant pas mal de temps, avec ensuite des échos en Italie ou en Espagne notamment, et je crois aussi dans d'autres pays, une publicité qui était « Il n'y a probablement pas de Dieu », le « probablement » a été ajouté à la suite d'une campagne de conducteurs de bus qui a menacé de faire grève. « Il n'y a probablement pas de Dieu, n'ayez pas peur et profitez de la vie ». Remarque fort intéressante, parce que cela signifie que la publicité, si elle est bien faite, doit jouer sur ce que pensent les gens de manière assez commune. Sinon, c'est une publicité qui ne marche pas. Donc, on a joué sur le fait que, apparemment, pour beaucoup de monde, la religion soit avant tout un empêchement. S'il n'y a pas de religion, vous pouvez profiter de la vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Par rapport à l'image que les croyants peuvent donner, je vous laisse aussi une question. Donc, le cher Dawkins, qui n'est pas un athée modéré, explique, qui est un biologiste, explique ce que peut être la question de Dieu. Il dit la présence ou l'absence d'une superintelligence créatrice est sans aucun doute une question scientifique. Une question scientifique, sous-entendu des sciences naturelles, comprises telles qu'il les comprend en lui. Et quand il réfléchit à la question de Dieu, il étudie la question sous l'angle biologique. D'ailleurs, le même Dawkins, dans une autre œuvre, mais comme je ne vous ai pas dit de quoi je tirais la première citation, ça n'a pas d'importance, dit « Toute intelligence, toute créativité et tout dessein partout dans l'univers est le produit direct ou indirect d'un processus cumulatif équivalent à ce que nous appelons ici sélection naturelle darwinienne. Le dessin ne peut précéder l'évolution et ne peut donc être à la base de l'univers. » Donc, si j'essaie d'expliquer cela en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire ? Il est biologiste, étudie la théorie de l'évolution. Alors, dans cette théorie-là, un être intelligent comme l'homme arrive après une longue période. Et encore, c'est un être d'une intelligence assez relative. Nous, vous voyez, Dieu, c'est mieux. Et alors, si l'homme arrive déjà très tard, si un Dieu existe, il devrait arriver beaucoup plus tard. Donc, il ne peut pas être au début du processus et l'avoir organisé. Voilà son argument. Je vous dirai tout de suite que l'argument ne me convainc pas tout à fait, mais je le précise quand même. Ou encore un autre athée, mais là, à vrai dire, si j'étais athée, je serais presque gêné d'entendre des arguments comme ça, dit Jonathan Adler, « Quand on soutient qu'un rituel peut changer du vin en sang, la question évidente est de savoir si l'on peut corroborer chimiquement cette prétention. » Là, dans le style réductionnisme, on est arrivé vraiment quasiment au niveau zéro. Parce qu'il n'y aura pas besoin d'étudier la théologie longtemps pour savoir que les théologiens ne prétendent pas du tout qu'on n'ait plus les espèces du vin à ce moment-là, pour prendre des termes, si j'ose dire, consacrés. Dans l'autre sens, on a un scientifique comme Francis Collins, qui était le responsable du projet, désormais terminé, c'est pour ça qu'il n'en est plus responsable, de recherche de base, en tout cas sur le génome humain. Donc un scientifique très reconnu dans son domaine, et qui dit « La faille principale et sans issue de la prétention par Dawkins que la science demande l'athéisme est qu'elle va au-delà de l'évidence. Si Dieu est hors de la nature, alors la science ne peut ni prouver ni affirmer son existence. L'athéisme doit donc être considéré comme une forme de foi aveugle. » Je suis assez d'accord avec lui. On peut considérer la différence entre l'attitude agnostique et l'attitude athée. L'agnostique dira « Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a un Dieu. Mais je cherche. » L'athée, à proprement parler, dira « Non, on sait. Il n'y a pas de Dieu. » Alors, sur une base scientifique, comment est-ce qu'on prouve ça? On ne peut pas le prouver, parce que c'est hors du champ des sciences naturelles. Donc, Collins, qui est le même scientifique, dit « Cet athéisme-là est une forme de foi aveugle, une affirmation non prouvée, ce qui, scientifiquement, n'est pas correct. » Et un autre type d'argument d'athée à matrice scientifique, si j'ose dire, un argument que je résume parce qu'il m'intéresse par ailleurs, à savoir, oh, bien sûr, certains croyants disent qu'une explication scientifique du monde, y compris quand tu as une certaine compréhension de l'évolution, et la foi chrétienne, par exemple, ne sont pas incompatibles. Certains croyants le disent, même Jean-Paul II l'a dit d'ailleurs en public, pour prendre un exemple assez connu et autorisé. Mais ces athées disent, mais alors, si Dieu agit par le biais de processus naturels comme l'évolution, c'est qu'il n'a rien à faire lui-même. Donc, il ne joue plus aucun rôle. Évidemment, si vous prenez cet argument-là, évidemment, toute notre action aussi est inutile. Dieu peut tout faire par lui-même, c'est vrai. Mais s'il avait décidé d'agir aussi par le biais de notre propre causalité, parce qu'il nous accorde de l'importance, mais c'est quelque chose que certains de ses auteurs ne voient pas. Saint Thomas dira bien, par exemple, à plusieurs reprises, et en fait, ça a plutôt été ça mon thème de prédilection plutôt que l'athéisme. La causalité intervient dans ce qui se passe dans le monde, la causalité créée aussi, parce que Dieu, certes, peut tout faire tout seul, mais il se trouve qu'il ne le veut pas, parce qu'il est comme un maître ou un bon enseignant qui veut que ses disciples soient ensuite autonomes, n'est-ce pas, c'est ce que vous souhaitez de votre institut. Et il est évident que c'est ce qu'il faut souhaiter, pas avoir des machines qui simplement, comme des robots, font des choses automatiquement, mais des personnes qui agissent par elles-mêmes. Saint Thomas a dit, voilà ce que Dieu fait. Et il ne le fait pas parce qu'il serait incapable d'agir lui-même, mais parce qu'il nous aime. Il veut nous donner cette dignité et il veut agir à travers nous. Et si on ne comprend pas cela, c'est l'ensemble de notre vie humaine et de notre vie chrétienne qui devient incompréhensible. Là, j'ai sauté assez rapidement par-dessus Saint Thomas parce que dans un endroit comme celui-ci, il faut parfois sauter, j'ai remarqué. Le réductionnisme, mais je passe dessus un peu rapidement, n'est pas seulement un réductionnisme de type scientifique, mais même plus radicalement matérialiste. Il ne pourrait rien exister d'autre que ce qui est matériel. Mais j'avais l'intention de parler de ça, mais comme je ne veux pas parler trop longtemps, je ferme cette parenthèse. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Je m'arrête à une question qui me semble très actuelle. C'est le lien entre la spiritualité et l'existence de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis très actuel? Parce que justement, le matérialisme auquel j'ai fait allusion a quelque chose d'un peu grossier, si j'ose dire. Et passablement de monde arrive à se rendre compte que nous ne sommes pas simplement un amas de matière et que nous aurions de la peine à nous y résoudre. Ce qui fait qu'un nombre croissant, me semble-t-il, d'athées revendique une spiritualité aussi pour les athées. C'est le cas en français, de Comte Sponville par exemple, même de manière tout à fait explicite. il y a en nous quelque chose de spirituel. Par exemple, et là, saint Thomas d'Aquin le dit aussi, nous avons une certaine idée de l'infini. Et d'ailleurs, dit-il, notre activité intellectuelle se porte à l'infini. Cette ouverture de l'intelligence à l'infini serait vaine s'il n'existait une réalité intelligible infinie qui est celle que nous appelons Dieu. Et c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Il y a en nous, disons, l'être humain ne s'arrête pas avant l'infini ou alors il descend un petit peu en dessous de son niveau humain. Comment interpréter cela? Il y a un débat relativement intéressant, mais vraiment relativement, avec quelques éléments intéressants entre deux philosophes espagnols, deux agnostiques, qui toutes deux enseignent la philosophie, toutes deux de philosophes au féminin, qui toutes deux enseignent la philosophie et représentent l'attitude assez typique de personnes qui ont été formées dans des écoles catholiques à l'époque de Franco et qui ont réagi violemment contre toute cette éducation sans arriver à s'en débarrasser complètement et en étant malheureuses. Et l'une d'entre elles écrit à l'autre, Amelia Varcasel, elle s'appelle, elle est agnostique. Bien que la religion soit irrationnelle, la raison est religieuse. Elle est anxieuse de faire des totaux et nous ne pouvons l'éviter. En d'autres termes, quand notre processus cognitif se met en route, quand on commence à connaître des choses, on commence immédiatement à essayer de comprendre les choses de manière un peu systématique. Par exemple, la première fois qu'un enfant voit un chien, il observe, il se dit que ce n'est pas tout à fait comme ses parents. Et puis, la différence est plus ou moins marquée. Ensuite, il voit un chat, il dit « Ah tiens !» Et puis petit à petit, « Ah, mais les deux, c'est des animaux, mais pas la même chose. » Là, il y a les chiens, les chats, puis ils sont dans une catégorie où il y a aussi les fourmis. Vous voyez, on commence à faire des systèmes. Notre raison procède ainsi, et si elle ne le fait pas, on ne comprend rien. Donc, la raison, effectivement, cherche à faire des totaux, comme dit Amelia Varcasel. Et elle cherche à comprendre les choses de manière systématique et globale. C'est en ce sens qu'elle dit. La raison est religieuse. On ne peut pas l'éviter, et c'est quand même bête, puisque la religion est irrationnelle, dit-elle, puisqu'elle est agnostique. On pourrait garder les mêmes prémices et dire, nous avons un désir de comprendre de manière un peu globale et organisée, sans prétendre y arriver pleinement en cette vie, le monde et ce qui arrive autour de nous, Dieu serait une pièce essentielle pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est ça. Mais, et donc, en d'autres termes, la raison même nous invite à chercher quelque chose dans le monde spirituel, sans quoi on ne comprend pas le monde matériel. Mais Comte Sponville dit, ah, la spiritualité c'est bien, être athée ce n'est pas nier l'existence de l'absolu, c'est nier sa transcendance. Il veut garder effectivement quelques éléments de spiritualité qu'on appelle généralement des valeurs, par exemple le sens du bien, du vrai, de la justice, ou on peut ensuite décliner ça de manière variable. Et une chose pour moi particulièrement étonnante, c'est que certains, sans être superficiels ni malhonnêtes, arrivent à ne pas remarquer la question religieuse. Je prends un exemple frappant, un certain Anthony Simon Laddon, qui est un philosophe juif américain, professeur de philosophie antique, et qui explique une expérience qu'il a faite. Il commentait un texte d'Aristote, qui parle de du désir de la connaissance du bien absolu, en quoi on peut trouver le bonheur, notre plein épanouissement, l'éthique à Nicomaque. Et il dit, j'ai commencé à partir dans une espèce de transe en commentant cela à mes étudiants, en disant, voyez comme c'est beau. Je disais à mes étudiants, voyez comme c'est beau ce qu'Aristote dit en termes de contemplation. Être attentif aux choses les plus parfaites, etc. Et un texte qu'il connaissait bien. Un texte qui est immédiatement compris par les disciples de saint Thomas comme une référence à l'existence de Dieu en qui seul nous pouvons, par le biais de la vision béatifique, être heureux. Ce qui fait que moi, par exemple, la première fois que j'ai lu ce texte, c'est immédiatement à ça que j'ai pensé. Évidemment, j'avais quelques présupposés. Eh bien, ce professeur de philosophie américain dit ensuite, un étudiant, pour une autre raison, est venu me voir pour parler d'un travail Elle m'a dit, ah, vous savez ce que vous avez dit dans le cours? Ça me rappelle ce que ma mère dit à propos de la vision béatifique, vous savez, le paradis. Et le philosophe dit, c'est étonnant, je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. Quand il me l'a dit, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un rapport et qu'il n'était pas si étonnant qu'il réagisse ainsi. Moi, je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. Et il dit, avant que cet étudiant ne parle, Dieu n'était pas entré dans mes pensées. Et il dit, je recours à cette histoire pour illustrer quelque chose de capital dans mon athéisme. Ce n'est ni un rejet conscient de la croyance en Dieu, ni un rejet de la possibilité ou du caractère désirable d'une forme de transcendance ou d'extase qui me prenne hors de moi-même et au-delà de moi-même. C'est simplement l'absence de Dieu dans mon paysage imaginatif comme la source possible de telle réalité. Un homme cultivé, qui a passé des années à étudier la philosophie, il dit, Dieu ne fait pas partie de mon paysage imaginatif. Je ne suis pas contre, je n'y pense pas. Ça, c'est, je dirais, une forme de sécularisation arrivée assez loin dans son... Et qui plus est aux États-Unis, dans une société où la place publique de la religion est plus forte qu'en Europe, ou du moins que dans une grande partie de l'Europe. J'avoue que c'est quelque chose qui m'intrigue, que je comprends assez mal. C'est le fait de ne même pas envisager la question et de le reconnaître. Ah, c'est vrai, moi je n'y pense pas. Pourquoi ? Quelque chose qui peut être un point de départ, il y en a plusieurs, mais prenons-en un, à une réflexion à propos de la question de l'existence de Dieu, c'est pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose ? Par exemple, je pense à saint Augustin parlant avec sainte Monique, sa mère, regardant dehors à Ostie, et endroit d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de connaître un peu, et qui observe les choses autour de lui et dit « Ah, je demande aux choses pourquoi elles sont là, pourquoi elles existent. » Et alors, il faut faire silence. Il faut un silence en soi pour pouvoir écouter ce que les choses disent. Voilà une condition assez indispensable. Si on est toujours dans le bruit et jamais tranquille, on n'a pas peut-être la possibilité de remarquer certaines questions. Et il dit « Un peu de silence. » Et puis les choses nous disent quelque chose. Chacune d'entre elles nous dit, ce n'est pas nous qui nous sommes faites, mais celui-là nous a faites qui demeure à jamais. Voilà une première chose que l'on peut se dire. Je peux regarder n'importe quoi dans le monde, il n'y a rien qui puisse me donner la raison de son existence. Alors, le problème, c'est que le monde est grand. Et on peut toujours se perdre dans les causes intermédiaires. N'empêche, pourquoi est-ce que les choses existent ? Au moins, cette question devrait se la poser. D'ailleurs, saint Thomas dit à ce propos, « Tout ce qui peut être ou ne pas être a besoin de quelque chose d'autre qui le fasse être. Il existe quelque chose avant tout ce qui peut être ou ne pas être, mais il n'y a rien avant Dieu. » Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que j'ai vu un débat, d'abord une conférence de Richard Dawkins, là, tu es précédemment cité à cause des bus, ou à l'aide de l'exemple des bus anglais, une conférence de Richard Dawkins dans une université du sud des États-Unis. C'est un exemple de mauvais service fraternel parce qu'un confrère dominicain m'a envoyé un email que j'ai vu un soir avant de me coucher, me disant « As-tu vu cette conférence de Dawkins sur Internet ? Je suis sûr que ça t'intéressera. » Et du coup, je me suis couché trop tard. Parce qu'il m'avait dit « La conférence... » ne dit pas vraiment autre chose que ses livres, c'est vrai, à part qu'en fait, il parle assez bien, malheureusement, si j'ose dire. Mais il y avait à la fin un débat très intéressant. Les gens lui posaient des questions qui, dans la plupart des cas, avaient de quoi mettre mal à l'aise les croyants. Parce que c'était malheureusement des questions un peu légères. Disons, dans le sud des États-Unis, il s'est trouvé confronté à un certain nombre d'arguments un peu simples. Du style, il n'y a aucune preuve de vos théories scientifiques, nous avons la preuve scientifique que le monde a 7000 ans, des choses comme ça. Et il n'avait pas trop de peine à balayer ses arguments, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en considération l'hypothèse que Dieu puisse être un être qui n'a pas besoin d'être causé ? Et ça l'a littéralement mis en colère. Il n'a pas du tout répondu. Il a dit, cette question n'a pas de sens. Mais c'est précisément la question qu'il a évitée. Ce n'est pas en soi une question biologique, mais les objets de la biologie, comment est-ce qu'on les comprend? Si tout ce qui existe commence à exister. Et c'est ce qu'il a refusé. D'ailleurs, il n'est pas le premier, Bertrand Russell, philosophe anglais, très fameux et quasiment centenaire, a eu un débat en 1948 à la radio britannique, BBC, avec le père Copleston, jésuite thomiste. Là, je regarde un jésuite. Ce que je fais toujours avec bienveillance, d'autant que le père Copleston était un homme vraiment impressionnant. Quand je pense qu'il y a eu deux longs débats à la radio en 1948 sur le thème de l'existence de Dieu, je me dis que la qualité du service public n'était quand même pas mauvaise en Angleterre, au moins à cette époque. Et le père Copleston dit à Bertrand Russell, mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui existe et non pas rien? Et que répond ce grand philosophe? La question « qui m'a fait ?» ne peut avoir de réponse car elle suggère immédiatement la question suivante « qui a fait Dieu ?» Précisément, il ne prend pas en considération l'hypothèse que Dieu pourrait ne pas avoir eu besoin d'être créé et n'a pas besoin de cause. Et si quelque chose peut être sans cause, c'est peut-être le monde aussi bien que Dieu. Et il continue en disant « la question n'a pas de sens, il ne faut pas la poser. » Mais voilà, l'athéisme dogmatique. Je pourrais donner d'autres arguments à la matière et que je résume. Par exemple, Robin Le Poitevin, un Anglais à un nom français, je suppose d'origine normande, professeur de philosophie de la religion, qui écrit un livre pour dire qu'il était athée. Je ne sais pas si c'est tout à fait d'actualité, parce qu'une de mes étudiantes qui voulait l'étudier lui a écrit, et il lui a répondu « aujourd'hui, je me dirais plutôt agnostique ». Mais toujours est-il qu'en 2004, il disait encore que signifie le terme l'univers. Je prends ça comme exemple d'attention que nous devrions avoir au sens des mots que nous utilisons. L'univers signifie l'ensemble de ce qui existe. Vous êtes d'accord? Voyez, il y a un piège. Il dit donc, si l'univers signifie l'ensemble de ce qui existe et que Dieu existe, Dieu est inclus dans l'univers, il ne peut donc pas en être la cause. Voyez comme nous devons être attentifs au sens des termes. Nous devons dire l'univers, c'est l'ensemble des créatures. Sinon, effectivement, Dieu serait en quelque sorte jugé parti ou causé dans cette histoire. Or, ce qui devrait nous étonner avant tout, ce n'est donc, et là encore j'avance parce que je traîne, enfin il y a un paradoxe, je me rends compte que je traîne un peu, j'essaye donc d'avancer plus vite. Ce qui devrait nous étonner le plus, ce n'est même pas ce que sont les choses, mais c'est plutôt le fait qu'elles existent. Le bon père Taguel, dominicain anglais, pour qui j'ai, je dois bien l'avouer, une certaine estime, et qui ne se souvient absolument pas d'avoir écrit ça, disait, j'ai vérifié, parce que je lui dis, mais c'est très bien ce que tu as écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, j'ai écrit ça, bon, mais ça arrive à tout le monde d'oublier ce qu'il a fait. Même moi, pourtant, je m'intéresse pas mal à ce que je fais, mais j'oublie aussi. La dernière idée que saint Thomas pourrait avoir en regardant le monde, c'est que Dieu doit se retirer pour que le monde existe. Parce que pour lui, il est évident que si Dieu se retirait, absolument rien de ce qui existe ne pourrait exister, ou ne pourrait subsister. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas du tout ce qu'il dit à propos de la création et de la grâce. Donc, ce qui devrait nous surprendre le plus, c'est le fait que quelque chose existe. Et on peut en quelque sorte résumer cet argument-là avec deux exemples, ce que je m'apprête d'ailleurs à faire en citant d'autres personnes. C.S. Lewis, fameux écrivain anglais et d'ailleurs anglican, qui disait « Vous devez sortir de la séquence des moteurs, aller dans le monde des hommes pour trouver l'origine de la fusée. N'est-il pas également raisonnable de chercher hors de la nature la véritable origine de l'ordre naturel ?» C'est un exemple, exprimé en termes, je dirais, simples et compréhensibles. On peut en prendre un autre, de Stephen Davis, qui est un philosophe américain encore, qui disait « Oh, la taille de l'univers nuit un peu à notre compréhension, je le dis dans mes termes à moi, parce que c'est ce que je pense, mais dans le fond, il le dit aussi. Donc, essayons de réduire l'univers, pour comprendre la situation, à un système plus simple. Un univers de 5 objets, A, B, C, D, E. Pourquoi est-ce que B existe? Parce que A l'a fait. Pourquoi est-ce que D existe, parce que B a fait C et D, pour compliquer un peu, vous voyez. Et puis, pourquoi est-ce que A existe? Parce que D l'a fait, ou quelque chose comme ça. On peut combiner ça de différentes manières. Et d'une fois que vous avez fini l'explication, vous dites, ah, bien, mais pourquoi A? Et il dit, cette question se posera, quel que soit le type d'univers que vous imaginez, il peut être, évidemment, il est beaucoup plus grand. Mais au moins, nier qu'il y a là une question n'est pas très raisonnable, parce que c'est une question. Il y a autre chose qui peut nous étonner dans l'univers, c'est le fait qu'il soit organisé. Comme j'aime bien citer des textes écrits par d'autres, je commence par vous citer, et ça n'étonnera que certains d'entre vous, c'est-à-dire probablement tous, Vera Kistiakovsky. Vous n'êtes pas tous des scientifiques, vous ne connaissez pas l'ensemble des professeurs retraités du MIT, Institut scientifique de pointe aux États-Unis, mais elle, justement, y a enseigné, et elle dit « Ma culture scientifique me met mal à l'aise avec ce fait, mais l'ordre admirable révélé par notre compréhension scientifique du monde réclame le divin. » Par exemple, et je peux prendre d'autres exemples, on en ajouterait facilement d'autres, Louis de Broglie, prix Nobel de physique français, prix Nobel de physique en 1929, explique l'état d'esprit du scientifique qui découvre quelque chose. Il dit, l'inventeur a tout à coup, je prends un exemple, c'est pas ce qu'il a découvert lui, mais un exemple plus connu, le théorème de Pythagore, concernant les triangles. Une fois qu'on l'a découvert, on remarque que dans tous les triangles correspondant à cette caractéristique, c'est la même chose. Et donc on découvre quelque chose sur l'ensemble des triangles, indirectement. Bon, mais en fait c'était déjà comme ça. Ce n'est pas moi qui ai brusquement, par ma découverte, fait en sorte que les triangles soient comme ça. Ils étaient déjà comme ça. Je découvre quelque chose qui, dans le fond, est assez raisonnable et qui était déjà là avant moi. Et Louis de Broglie dit, l'inventeur a tout à coup le sentiment très net que les conceptions auxquelles il vient de parvenir, dans la mesure où elles sont exactes, existaient déjà avant d'avoir jamais été pensées par le cerveau humain. Et je dirais, il a tout à coup l'impression de se trouver en dialogue avec une autre intelligence, qui était déjà là avant lui, et qu'il rencontre par sa découverte même. Parce qu'il découvre quelque chose d'organisé et de rationnel, mais pas d'organisé et rationnel par lui, que peut-être personne n'avait remarqué jusque-là dans l'humanité. Je passe sur un certain nombre de légers défauts du système. Je veux dire, on peut poser des questions, évidemment. Le monde est organisé, mais il n'est pas toujours parfaitement organisé. Ça nous ramène à une autre question qui est celle du mal. Je ne m'arrête pas à cette question ici, parce qu'il reste que le monde est organisé. La question est évidemment très sérieuse, mais, d'ailleurs je vais y venir, mais le monde est organisé. Un exemple, un autre, Anthony Flew. Anthony Flew est un philosophe, en fait je ne sais même pas s'il est anglais ou américain, j'ai un doute, mais peu importe. Pour notre propos du moins, j'admets que ça peut changer quelque chose pour lui, pendant quelques décennies, il est décédé maintenant, pendant quelques décennies, il a milité en faveur de l'athéisme, comme professeur de philosophie. Il courait les débats pour aller expliquer que croire en Dieu n'était pas raisonnable, ou disons qu'affirmer l'existence de Dieu n'était pas raisonnable. Et puis il a changé vers 2003. Ensuite, il a ce qui a donné lieu à un débat, parce que certains ont dit qu'il n'était plus capable de penser. Il n'a pas beaucoup aimé, d'ailleurs. Et il a expliqué pourquoi il avait changé d'avis. Et là encore, je le résume. Il dit, alors pourquoi est-ce que j'ai tellement changé après un demi-siècle d'athéisme militant? Il dit, parce que les sciences naturelles elles-mêmes m'ont aidé à comprendre à quel point le monde était organisé. Et en quelque sorte organisé pour nous. Il dit, alors imaginez, pour voir un peu comme le monde nous accueille, votre surprise quand vous entrez dans une chambre d'hôtel pendant vos vacances. Si, quand vous ouvrez la porte, vous entendez votre musicien préféré, et puis vous voyez qu'on a décoré la chambre à votre couleur préférée, et puis qu'on a mis dans la salle de bain le savon que vous préférez, pour autant qu'il en existe un, parce qu'on n'a pas tous ce genre de fantaisie, mais quand même. Et il y a un livre de votre auteur préféré posé sur la table, et puis quand vous ouvrez le bar, vous trouvez tout ce que vous préférez boire et manger, etc. Il dit, au bout d'un moment, vous vous direz, comment est-ce qu'il savait? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Mais l'idée ne vous viendra pas que tout ça est arrivé par hasard. C'est trop une chose, oui. Deux peut-être, mais quand il est là une dizaine, on se dit quand même ça fait un peu beaucoup. Il dit, or, c'est ainsi que le monde semble fait pour que nous puissions y vivre. C'est quand même étonnant, ça a quand même bien dû être pensé par quelqu'un. Et il donne cet exemple pour dire pourquoi il a cessé d'être athée. Ce qui n'est pas inintéressant. Mais alors, encore une fois, ça nous renvoie à la question du mal. Je n'ai pas l'intention d'en traiter de manière exhaustive, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que même y consacrer une conférence entière ne suffirait pas, et que parfois, on a plutôt tort d'en parler, mais quand même quelque chose, on peut le dire. Certains, que je ne cite pas, mais que je résume, disent, à juste titre à mon avis, on a tort de commencer par la question du mal, pour à partir de là bâtir une théodicée à la Leibniz. Parce que, quoi qu'il en soit du mal, la question de savoir pourquoi le monde existe et est organisé est une question qui se pose. Alors, le philosophe chrétien, par exemple, dira « C'est admirable l'organisation du monde, mais c'est quand même étonnant qu'il y ait ces couacs, si j'ose dire. » C'est quand même étonnant. Donc on pose la question. Jean-Paul II disait « Cette question-là, non seulement on a le droit, mais on a le devoir de la poser à Dieu. Sinon, on n'est pas complètement humain. » Mais ce n'est pas la première question. D'autant que la question du mal, on ne la repère qu'à partir d'un ordre existant. Le simple fait qu'on pose la question signifie qu'on voit que les choses existent avec un certain ordre, sont organisées d'une certaine manière, et que pour cette raison, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc il y a un désordre. Mais le désordre lui-même renvoie à quelque chose de plus fondamental qu'est un ordre, sinon on ne remarquerait pas le problème. Et c'est pourquoi je crois qu'il est faux de commencer par la question du mal, dont, de bien des manières, il vaut pas. Parfois mieux ne pas essayer de parler trop. On peut en parler, mais peut-être pas toujours trop. Enfin, par rapport à l'athéisme, un autre argument fréquent, le dernier que je vais citer, mais un des plus populaires, est la question de la violence. C'est un fait, me semble-t-il, que la religion est revenue un peu sur le devant de la scène, on peut dire presque de la scène culturelle, qu'il y a quelques décennies sous l'influence du positivisme, entre autres, disait bon, la religion c'est un phénomène du passé, ça reste encore chez quelques primitifs, mais quand ils auront compris mieux, ça va disparaître. Et donc intéressons-nous plutôt à quelque chose d'autre. Et la religion revient sur le devant de la scène, de manière même assez frappante, mais pas toujours pour des raisons réjouissantes. Une des raisons pour lesquelles cela arrive, c'est qu'on l'associe à la violence. Il y a des guerres à composantes religieuses qui se sont développées ces dernières années. Et je n'ai pas besoin d'en donner des exemples, puisque malheureusement, les exemples sont suffisamment nombreux et évidents. Alors certains se lancent tranquillement dans des arguments du style de Michel Onfray. C'est aussi un athée dont je suis un peu heureux qu'il ne soit pas croyant, parce que je trouve ces arguments un peu embarrassants pour les athées. Les athées peuvent avoir et ont des arguments plus intéressants que les siens. Mais bon, le brave Onfray peut-être bien blessé dans sa vie, je ne sais pas, donc ce n'est pas qu'une question de raisonnement. Le brave Onfray dit, l'histoire en témoigne, des millions de morts, des millions sur tous les continents, pendant des siècles, au nom de Dieu, la Bible dans une main, le glaive dans l'autre, et alors l'inquisition, la torture, les croisades, les massacres, etc. D'ailleurs, et le compagnonnage de route avec Mussolini, Pétain, Franco, Hitler, Pinochet, Salazar, les colonels grecs, etc. Des millions de morts pour l'amour du prochain. Évidemment, c'est un argument qui frappe, parce qu'il n'est pas totalement dénué de fondement. Il est, dans cette forme-là, un peu excessif. Richard Dawkins a vraiment le sens de la publicité. Alors, il a accepté de parler dans une émission à la télévision en Grande-Bretagne et on a fait de la publicité. On a fait de la publicité avec une image représentant New York, Manhattan, avec les deux tours qui n'y sont plus. Et le sous-titre « Imaginez un monde sans Dieu ». Et Dawkins commente en disant « Qu'est-ce que cela suggère ?» Et encore une fois, la publicité doit manifester quelque chose qui sera dans l'esprit de la plupart des gens, sinon elle ne marche pas. C'est d'ailleurs assez fort la publicité de ce point de vue. Tout le monde comprend, dit Dawkins, ou du moins beaucoup, ce que cela veut dire. Un monde sans Dieu, c'est un monde où ces deux tours n'auraient pas été détruites. Voyez le danger de la religion. Et il dit, imaginez un monde sans Dieu. Pas de porte de bombe suicidaire, pas de 9 septembre, pas de 7 juillet, ça c'est plus britannique comme référence, attentat dans les métros de Londres, pas de croisade, pas de chasse aux sorcières, pas de partition de l'Inde, pas de guerre israélo-palestinienne, on peut continuer. Et effectivement, la religion a parfois contribué à la violence. Mais tout de même, certains lui ont fait remarquer que dans la religion, il y a aussi autre chose que ça. Je dirais, sur la base... Par exemple, prenons un cas au hasard moi-même. Je ne prétends pas du tout être un exemple parfait qu'il faudrait suivre, mais je pense quand même que si je n'étais pas croyant, je serais pire. Et c'est quelque chose que, je veux dire, le Christ est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Il n'a jamais prétendu qu'il ne s'adressait qu'aux bien portants et que ses disciples étaient tous parfaits à proprement parler. Mais justement, il est venu nous aider à changer. Et quand on prêche l'amour du prochain, ce n'est quand même pas seulement dans le but de faire la guerre aux autres. D'ailleurs, André Comte Sponville, encore une fois athée, dit « Toute religion, par définition, est humaine. » Nous dirions, elle n'est pas seulement, mais il y a une composante humaine. De fait, que tout ait du sang sur les mains, cela pourrait rendre misanthrope, mais cela ne saurait suffire à justifier l'athéisme, lequel, historiquement, ne fut pas non plus sans reproche, spécialement au XXe siècle. Alors, il donne des exemples, la Saint-Barthélemy, Staline, les croisades, Mao, Pol Pot, etc. L'horreur est innombrable, avec ou sans Dieu. Cela nous en apprend plus sur l'humanité, hélas, que sur la religion. Puis, il y a aussi chez les croyants, au moins autant que chez les incroyants, des héros admirables. C'est déjà plus nuancé. On a commis des horreurs aussi au nom de la religion, mais aussi au nom de l'athéisme. Et chercher à essayer de quel côté le total est le pire, pour prendre les termes même de Comte Sponville, c'est une entreprise qui manque un peu de dignité et qui n'est pas très probante. Je me souviens, je peux donner ça comme exemple, presque amusant, j'ai essayé une fois une discussion dans un avion, plus qu'une fois, mais par exemple cette fois-là. Mon voisin était assez mécontent parce que sa voisine et son voisin, moi, le voisin, ça c'était moi, avaient très bien dormi et pas lui. Alors il a commencé du coup à engager la discussion sur ce propos et puis la discussion a un peu continué. À un moment donné, sa voisine de droite, qui était une américaine spécialiste de cuisine scandinave et qui est rentrée des États-Unis où elle avait fait des conférences sur la cuisine scandinave, ce qui est la chose la plus normale du monde, lui a dit, parce qu'elle a supposé, vu sa nationalité, qu'il était probablement musulman, lui a dit, ah, je regrette que dans votre pays, probablement, le Danemark ait plutôt une mauvaise image à cause des caricatures de Mahomet dans certains journaux. Et alors, il a répondu, tout le monde sait très bien que tous les problèmes du monde proviennent de la religion des femmes et de l'argent. Et... comme il était professeur de littérature, je me suis dit qu'il avait peut-être une approche un peu rapide de certains textes. Et j'ai essayé quelque peu de lui dire, vous voyez, quand vous dites la religion, les femmes et l'argent, d'abord, quand vous dites les femmes, vous pensez au rapport entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire, en gros, l'amour, qui peut porter à la violence. Non, les femmes. Bon. Et, tu vois, c'est... on peut devenir violent pour des choses qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire pour des choses importantes. Mais si on enlève de notre vie tout ce qui est important, est-ce que vraiment on va diminuer les conflits? Mais, bien, je n'ai pas bien argumenté. Et la spécialiste de cuisine scandinave m'a fait un petit signe discret, signifiant à peu près « ne vous fatiguez pas ». Bon. Mais je regrette, parce que l'air de rien, il y a là une vraie question. Certes, la religion peut porter à la violence. C'est parce qu'elle est importante dans la vie de beaucoup de monde. Vouloir la leur enlever, c'est aussi leur faire violence. Entre parenthèses. Cela porte justement à la violence, et on en a aussi l'histoire. D'ailleurs, quand le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, qui plaît beaucoup au père de la Soujol, qui en a une analyse assez personnelle et subtile, quand le Concile Vatican II parle de l'athéisme, il donne parmi les causes de l'athéisme les croyants. mauvaise présentation de notre foi par notre vie et notre mauvaise présentation de la doctrine de notre foi. Il faudrait corriger ces deux choses pour qu'on puisse finalement avoir de la religion une vision plus correcte. J'ai entendu, il y a des années à l'Angelicum à Rome, une conférence du cardinal Ratzinger parlant de Jean-Paul II et disant « Jean-Paul II, si vous regardez son action, veut mettre en œuvre le programme de Vatican II, à partir du texte que je viens de citer, ou auquel j'ai fait référence brièvement, disant, il veut expliquer ce qu'est la foi chrétienne pour ceux qui la comprennent mal, et donc il parle et il écrit et il prêche partout, et il veut montrer ce qu'est la vie chrétienne en montrant la vie des saints et en canonisant. Ainsi, il cherche à mettre en œuvre le programme de Vatican II, dans lequel se trouve le remède à l'athéisme, que lui avait bien connu par ailleurs. Et je crois que c'était une remarque assez profonde du bon cardinal Ratzinger. Maintenant, une petite conclusion, pas très brève, mais presque. Ah, vous comprenez, j'ai des trucs. Je me dis que si je m'arrête trop longtemps avant la messe, vous allez avoir trop le temps de me poser des questions, de remarquer mes lacunes. Quelles sont les conditions de possibilité de l'affirmation de l'existence de Dieu ? Que faut-il pour que l'on puisse dire que Dieu existe ? Le pape Pie XII, dans son encyclique Humani Generis, a traité de cette question à partir d'une question qui lui vient du premier concile de Vatican. Vatican I dit que par la raison naturelle, c'est-à-dire en regardant le monde et en y réfléchissant, on peut affirmer l'existence de Dieu. Et Pie XII se dit, mais alors pourquoi est-ce que chez certains ce n'est pas le cas ? Bonne question. Il dit, ah, la raison humaine peut réellement, par ses forces et sa lumière naturelle, arriver à une connaissance vraie et certaine du Dieu unique et personnel, il développe un peu. Il y a cependant bien des obstacles, empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de cette capacité native. Quels sont ces obstacles ? Ce sont des vérités qui dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. En gros, ce n'est pas un objet facile. Cela demande une réflexion, comme disait d'ailleurs même ce Concile Vatican I, une réflexion difficile et la révélation de ce point de vue plus rapide. Et puis il ajoute, lorsque ces questions doivent s'appliquer à la conduite de la vie et lui donner forme, elles exigent qu'on se donne et qu'on se renonce. En d'autres termes, demande une conversion, ont un impact sur notre existence. Est-ce que Dieu existe, oui ou non ? Ce n'est pas une pure question théorique, mais c'est une question à impact pratique immédiat. Dieu existe, alors peut-être qu'en fait, il y a des choses dans ma vie qui devraient changer. Et on peut en avoir envie, et on peut aussi ne pas en avoir envie. Je veux dire, ça joue dans les deux sens. On peut dire, j'ai envie de changer, il faut qu'il y ait Dieu, ou j'ai pas envie de changer. Et Pie XII dit, dans ces matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins du caractère douteux dont ils ne veulent pas que cela soit vrai. Et c'est une question, c'est un point que l'on doit vraiment prendre en considération, ce n'est pas une question neutre. C'est une question qui a un impact très fort sur nous. Et notre intelligence est un peu biaisée par cela. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, ne dit-il pas en citant saint Augustin, pas exactement sur cette question, mais quand même, Augustin dit que l'homme peut faire les autres choses sans le vouloir, mais ne peut croire que s'il le veut. Là, saint Thomas parle de la foi, et pas d'une argumentation philosophique sur l'existence de Dieu. Mais n'empêche que je crois qu'il y a une certaine proximité des deux choses, pas absolue, mais quand même que si on ne veut pas arriver à la conclusion que Dieu existe, on n'arrive pas à cette conclusion. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose avec une évidence strictement mathématique. Et les mathématiques nous dérangent moins dans notre vie, sauf peut-être quand elles ont un rapport direct avec le compte en banque. Mais, alors maintenant, c'est la vraie conclusion. Est-ce qu'on peut éviter les questions ultimes ? Vous savez, c'est quand même quelque chose qui me tarabuste. Je vous cite l'exemple de ce philosophe médiéviste juif disant « Je ne pense pas à Dieu, ça ne fait pas partie de mon univers mental. » Peut-on éviter ces questions ultimes ? Je prends comme exemple qui me plaît beaucoup. Bon, j'ai déjà cité Bertrand Russell. Il est illégitime de poser la question de l'existence de la cause du monde. Bon, la question n'a pas de sens. D'un autre côté, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio a été sénateur à vie en tant que philosophe en Italie. le président de la République italienne peut nommer 5 sénateurs à vie. Il y a des débats entre les présidents pour savoir si on arrive à un total de 5 ou si chacun peut en nommer 5 pendant son mandat. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas sans importance, je veux dire. J'ai vu, durant mes 15 ans en Italie, deux cas où la majorité du gouvernement dépendait des sénateurs à vie. Et eux pouvaient faire changer la majorité. Et Norberto Bobbio, professeur de philosophie, a été nommé sénateur à vie. Il ne l'est plus. Alors, quand il était déjà fort âgé, ce qui est lié au fait qu'il ne soit plus sénateur à vie, en l'an 2000, il était déjà fort âgé. Et il a dit, c'est une question traditionnelle, mais je n'ai pas la réponse. Pourquoi l'être et pas plutôt le néant ? Je ne me suis jamais caché de ne pas avoir de réponse, et j'ignore qui sache la donner à cette question ultime, si ce n'est par la foi. Et face aux questions auxquelles il est impossible de donner une réponse, parce que de cela je suis sûr, je ne peux donner une réponse, bien que j'appartienne à une humanité qui a réalisé des progrès énormes, je me sens un petit grain de sable dans cet univers. Et nier que la question ait un sens, comme pourrait le faire une certaine philosophie analytique, Bertrand Russell, me semble un jeu avec les mots. En d'autres termes, moi je ne connais pas la réponse à la question, mais ce n'est pas pour cela que la question est inintéressante. La question m'intéresse. Et il dit que cela dépend probablement de mon incapacité à aller au-delà. Mais quand je sens que je suis arrivé à la fin de ma vie, sans avoir trouvé de réponse aux questions ultimes, mon intelligence est humiliée. Humiliée, il répète. Je sais que je ne sais pas. C'est ce que j'appelle ma religiosité. Je ne sais pas si c'est juste, mais au fond, cela coïncide avec ce que pensent les personnes religieuses face au mystère. Ça, c'est la différence entre l'athée et l'agnostique. C'est qu'il reconnaît que la question n'est pas close, et qu'il aimerait bien avoir une réponse, mais il n'arrive pas à la trouver. D'ailleurs, après qu'il ait écrit cela, enfin je ne sais pas si c'est après, en tout cas moi je l'ai entendu après, un de ses amis m'a dit l'attitude de Norberto Bobbio après le décès de son épouse. Il disait, moi, je ne veux pas qu'elle n'existe plus. Je crois que d'une manière ou d'une autre, je pourrais la retrouver. Et un certain désir de Dieu se manifeste aussi à travers cela. Et puis, dans le fond, je pourrais citer quelques autres personnes. Par exemple, pour conclure, Fabrice Hadjadj. J'ai un peu évité, notez bien, parce que c'est quand même un peu délicat de parler de quelqu'un en sa présence. Cela pourrait nuire à son humilité si le risque existe. Non, ah bon, voilà. Oui. Vous savez, la première chose que le cardinal Ratzinger m'ait jamais dit à part « bonjour », c'est « ah, mais c'est bien ce que vous avez fait ». Et je lui ai dit « j'avais peur ». Il me dit « vous êtes trop humble ». Et je lui ai dit « non ». Ça, j'en reste convaincu. Donc, nous sommes d'accord. Alors, dans votre livre « La foi des démons », qui est un livre que je dois dire, et je l'ai dit longtemps avant de le dire en votre présence, j'ai trouvé vraiment magnifique et que j'ai beaucoup aimé et qui est une approche vraiment originale de la question. Question que j'avais déjà étudiée pendant quelques années avant. Et la foi des démons, alors je ne veux pas résumer votre œuvre parce que vous aurez l'impression que vous l'avez mal écrite s'il faut se baser sur ce que j'en ai compris. Mais qui sont les premiers à reconnaître Jésus dans l'Évangile ? Est-ce que c'est Saint-Pierre ? Mais non, voyons, les démons. Simplement, ça ne les a pas changés. Nous savons bien qui tu es, laisse-nous tranquille. Ça, c'est le risque du croyant. Ou c'est le risque de toute personne fermée, fondamentalement. Et dans votre livre, vous dites, l'athée qui cherche est à la fois l'athée véritable et l'athée finissant. Véritable parce qu'il ne fait pas de son athéisme un dieu, du genre, je sais que Dieu n'existe pas, la question n'a pas de sens. Ça, c'est l'athéisme dogmatique. Il ne fait pas de son athéisme un dieu. Finissant parce qu'en conséquence, il souffre d'être athée encore. Et je dirais, évidemment, ce n'est pas naturel. On a besoin d'autre chose, on n'est pas fait pour ça. Et je conclurai avec votre phrase, ne mérite l'invective au fond que celui qui ne cherche pas. Et je crois que c'est une phrase qui s'adresse absolument à tout le monde. Parce qu'en tant que croyant, nous pouvons correspondre à cette caractéristique-là. Et ainsi justifier un rejet de la part d'autrui. Mais si l'athée commet la même erreur, il y a là simplement quelque chose qui est trop peu humain. Bon, je pourrais continuer, mais je m'arrête.